Bonjour et bienvenue à Regards Croisés avec Fulgence Blas et
Arlette Farah.
Bonjour.
Alors bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
Avant qu'on parle de nos invités, j'aimerais s'il te plaît faire un petit message qui a déjà été diffusé plusieurs fois mais auquel je me joins chaleureusement. Donc aujourd'hui à 17h30 devant le Palais de Justice de Montréal et en présence de plusieurs personnalités publiques, eh bien il y aura un mouvement qui va être là parce que Roson a été acquitté. C'est la société qui change le droit, dit Annick Charette. Gilbert Roson s'en sort pour la deuxième fois face à la justice depuis l'éclatement du mouvement. Hashtag moi aussi. Hier, le tribunal l'a acquitté des accusations de viol et d'attentat à la pudeur qui pesaient contre lui. Ce soir, solidaires, nous tiendrons une sentinelle à la bougie afin de marquer notre appui à Annick Charette, mais aussi à toutes les victimes d'agressions sexuelles. Nous vous croyons, nous sommes là. Alliés femmes et alliés hommes, venez témoigner votre soutien aux victimes et votre indignation devant notre système judiciaire. Ce soir, à 17h30, rassemblons-nous devant le Palais de justice de Montréal pour être cette société qui change le droit. Passez le mot, venez nombreux. Habillez-vous bien sûr très chaudement et n'oubliez pas votre masque. Une bougie dans un pot maçon sera bienvenue pour apporter un peu de lumière dans cette semaine si sombre. Merci. Maintenant, on peut parler de nos invités.
Bien livré. Hein.
Merci.
Belle lecture, Arlette. Oui, on peut. Qui tu reçois en deuxième partie d'émission?
En deuxième partie d'émission, on va parler danse. Avec André Laprise, on va parler du chorégraphe Fernand Naud, dont on célébrerait le 100e anniversaire cette année, le 27 décembre 2020.
S'il vivait encore.
Ce serait extraordinaire.
Voilà,
c'est un grand monsieur qui a fait beaucoup de choses, donc on va en discuter. On parlera de danse dans la prochaine demi-heure. Et oui. En début d'émission?
Et comme tu sais que j'aime la danse, j'ai hâte
d'en parler aussi, je comprends.
En première partie d'émission, on va recevoir un des artistes boursiers du Calque,
oui.
Dont on en parle depuis la semaine, oui. Depuis la semaine, c'est le troisième qu'on reçoit d'ailleurs, Jean-Emmanuel Ndjok alias Zekoul, qui sera avec nous pour parler de son parcours musical. Il a son quatrième album, c'est un projet financé, supporté par le Conseil des Arts du Canada et le Conseil des Arts et Lettres du Québec. Alors, on écoute une pièce. Deux de ses premiers albums, ensuite les deux autres pièces qu'on a écoutées sont de son nouvel album sorti en décembre 2019. Alors, on y va tout de suite avec Ibolo Zekoul.
We'll be right back.
Ça, c'est Zekul dans son style bien particulier à lui, Zekul Imbolo. Ça, c'est une pièce d'un de ses premiers albums d'ailleurs. Mais les deux autres pièces qu'on va écouter plus tard font partie de son nouvel album qui était sorti en décembre 2019. On l'a déjà au téléphone au bout du fil, Jean-Emmanuel Atna Njok alias Zekul. Bonjour Zekul.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va bien?
Oui. Ça va, non, on va bien ici.
Nous aussi, ça fait rentrer du soleil dans le studio.
Voilà.
Ah bon, parce que j'ai entendu deux personnes. C'est ça, je me demandais qui
c'est... Oui.
Arlette, ma collègue, bien sûr.
Ah bon, bonjour.
Moi, je t'ai envoyé le lien de l'émission. T'as pas vu la photo de Fulgence d'Arlette, là de...
Et voilà. Mais on était en train de danser. Hein.
Voilà.
Ok, vous avez la version, en fait,
live. Belle et bonne.
Ah oui, c'est version live, okay.
J'adore.
Il y a aussi la version album hein, que vous pouvez trouver dans n'importe quel soit
la
section intéressée à avoir ça dans la version album, on le trouve dans YouTube tout simplement. Hein.
Ok, Zekul, non mais j'aime bien cette version là aussi, c'est bien, tu sais bien faire avec de belles boum. Zekul,
oui.
Alors. Merci d'avoir eu le temps d'être avec nous en studio, même si ce n'est pas ici physiquement avec nous. Bravo d'abord d'être parmi les artistes boursiers, parce que ce n'est pas n'importe qui se retrouve sur cette liste-là. Bravo, félicitations.
Ah, merci.
Oui,
merci.
Choisi par,
cela,
oui. Voilà, par d'autres artistes, et puis pour le beau travail que tu fais depuis, disons, ton premier album qui était sorti depuis, disons, 92, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement.
Voilà, et puis le quatrième qui est sorti en 2019. Beau travail, beau parcours. Maintenant, oui. tu as le support du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des Arts et Lettres du Québec qui te permettent de faire ton travail tranquillement sans te poser de questions parce que tu arrives à les convaincre avec le beau boulot, le beau projet que tu déposes. Et puis, bon, ben voilà, toi aujourd'hui, comment on se sent quand on fait partie de ces artistes sélectionnés pour être boursiers du calque?
Ah, vraiment, on se sent quand même, disons, j'allais dire privilégié, mais c'est la chance aussi, parce que voilà, c'est des artistes qui évaluent ces dossiers et puis qui considèrent que le travail mérite d'être appuyé,
oui.
Mais ça ne veut pas dire que nous sommes les seuls. Il y a plein de projets qui sont très beaux.
Oui.
Moi, je dis toujours que tout le monde mérite, chacun son tour.
Oui, c'est que, ouais, tout le monde est gagnant.
Alors, voilà, tout le monde est gagnant et chacun son tour. Il faut tout le temps que ça tourne. Oui. Alors, la chose, c'est justement de faire tourner la roue. Alors, ce qui crée souvent des problèmes, c'est quand la roue ne tourne pas.
Oui.
C'est-à-dire que quand des fois, c'est toujours les mêmes, par exemple. C'est un exemple, quand c'est toujours les mêmes, ou bien c'est pas toute la diversité qui est reconnue. Quand elle n'est pas assez reconnue, quand il faut comprendre que chacun est à son temps, à son moment. Il faut donner la chance à chacun de faire son travail, de montrer, de donner son, comment dirais-je, de présenter sa lumière, son message.
Passer au suivant.
Au suivant.
Voilà, c'est ça.
Toujours donner, parce qu'il y a. Parce que moi, ma petite philosophie, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde.
C'est vrai.
Ça, c'est sûr et certain. Il y a de la place pour tout le monde et il y a tout pour tout le monde. Donc, chacun mérite d'avoir quelque chose. Donc, je me sens, oui, privilégié pour avoir à mon tour, pouvoir présenter quelque chose. avoir un support. Mais ce n'est pas tout. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé. C'est ce que je fais aussi comme conseil. Ça veut dire simplement que voilà, c'est un bon coup de pouce. Il faut justement se retrousser les manches, comme on dit.
C'est vrai.
Alors, j'allais dire, comme la chanson que vous venez d'entendre, Ibolo, son message, c'est « Après l'effort, c'est l'effort ». Ça, c'est chanté. Vraiment, voilà, c'est vrai de dire comme ça. Après l'effort, l'effort.
Après l'effort, ça me fait penser après la pluie, le beau temps, quoi.
Après l'effort, l'effort. Après
encore l'effort.
Encore l'effort.
Dans le sens de qu'il faut respirer. Ça prend un équilibre. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est l'équilibre qui aide à justement avoir cette polarité qui fait tourner la roue, qui fait qu'on équilibre et on se repose en même temps. Entre l'effort, mais très. Un beau repos, un effort. En faisant l'effort, on se repose aussi en même temps.
Oui.
Donc, ce n'est pas qu'après avoir eu une bonne nouvelle, un bon coup de main, on dit « Oh, je suis arrivé maintenant, j'ai tout. Oh. » Puis là, on baisse les bras, puis on dit « Bon, c'est fini, je peux dormir, je peux me reposer. » Non. Alors,
le vrai du travail commence après ce support-là.
C'est l'équilibre.
Ça, voilà, ça donne un peu d'équilibre.
Continuer sans arrêt, l'éternel rappel qu'il faut se refaire quand, chaque matin qu'on se réveille, de se recalibrer à chaque fois, de se reconnecter à cette vibration première qui nous soutient en tant qu'humain, esprit aussi à la fois.
Esprit voilà. Aussi à la fois. Zekoul, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te dire rapidement, Zekoul, c'est vrai, il est né à Québec.
Il est reparti vivre dans...
Non, il est né là, et puis il a grandi, il est allé vivre au... Parle un peu de ton parcours là, un peu, s'il te plaît. Laisse-moi, je pouvais te laisser dire ça. Oui, il est né à Québec, mais il n'a pas grandi là. Il a grandi dans son pays.
Oui,
en Cameroun, fait... le pays de ses parents. Vas-y, parle-moi un peu de toi, de ton parcours.
Ah, ben voilà, voilà, c'est comme ça, c'est arrivé comme ça. Moi aussi, je me suis retrouvé en plein, j'ai été surpris tout simplement aussi, moi, quand on m'a dit que ben, dans 3 jours, tu viens au Québec, on veut que tu ailles là-bas, voilà, tu as été là-bas. C'est que s'est passé, en fait, mon papa, qui est un traditionnaliste, linguiste aussi, à la fois qui préservait les ancestralités de notre coin, côté bantou, au niveau du Cameroun, était un stage ici à l'université de Laval. Il faisait un stage et dans la fin de son stage, comme ça, ça lui est arrivé, il s'est rappelé que, mais tiens, que sa femme était enceinte de moi. Madame, ma maman.
Oui.
Voilà, étant au Cameroun, puis lui, son visa terminait, il restait deux mois, je pense, que son visa termine, quelque chose comme ça. Et là, il a pensé de la faire venir, comme ça, pour dire, mais tiens, quand un enfant naît dans ce pays, apparemment, on lui remettait la citoyenneté, quelque chose comme ça.
Oui.
Et c'est comme ça, quand ma mère est venue, il l'a fait venir, il est lui restant juste quelques semaines. Puis ils m'ont fait mettre dans un hôpital à Québec. J'ai vu le jour en plein hiver.
J'ai vu le jour en plein hiver, ouais.
Voilà, après quelques semaines, donc on a demandé, le gouvernement, le visa terminé de mon père, on lui a dit, bon, voici, voilà.
Rentrez chez vous.
Rentrez chez vous. L'enfant peut rester, par contre, là, ma mère a dit, non, 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 non.
Mon enfant ne reste pas ici.
Non. Je me suis retrouvé dans ma forêt au Cameroun.
Oui.
Et puis, à vivre tout ce que j'ai eu à vivre. Mon grand-père, j'ai vécu beaucoup avec mon grand-père et mes parents aussi. Mais mes parents, comme ils allaient des fois en ville et tout.
Oui, oui, oui.
J'ai resté beaucoup chez mes grands-parents. Et c'est comme ça que j'ai pu expérimenter aussi cette tradition qui m'a été léguée,
oui.
La tradition de langage des temps. On appelle ça en Afrique centrale, on parle d'initié ou inné.
On va écouter une pièce de cet album-là, Tondana. Mm-hmm. Après, tu vas nous parler un peu de ce langage des temps.
Ah, ok, d'accord.
Voilà, on écoute la pièce d'abord, la pièce que tu as... Avec le grand Ben Deka. Mais c'est, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est cool oui, avec Ben Deka.
Oui, Ben Deka, il était aussi ici à Montréal. Je vous dirai tout à l'heure comment ça s'est passé.
Ok, ok. Allez, à tout à l'heure, c'est cool.
D'accord.
Ouais. Avec la complicité de Bendik Bendeka, Bendeka, l'une des grandes têtes de la musique Makossa, du son Makossa, là-bas de la voix du porte-voix du Makossa au Cameroun d'ailleurs. Comment s'est passée cette complicité, cette collaboration? Comment tu as pu l'approcher?
Bendeka, oui, Bendeka, légende de la tradition Makossa camerounaise. Bendeka était de passage à Montréal,
oui,
bien souvent, comme plusieurs autres artistes venant du terroir qui viennent faire un tour ici pour jouer soit un festival, soit pour la communauté. Et à chaque fois, quand ils viennent, des fois, ils demandent à faire quelque chose avec, de faire avec moi.
Okay.
Que je puisse les accompagner des fois, comme pour quand ils ne sont pas avec leurs musiciens et tout, pour avoir cette guitare traditionnelle là, du Cameroun. Alors, ils me demandent de les accompagner et tout ça. Et puis, comme ça, une fois Bendeka est passé, il m'a trouvé. Donc, moi, j'étais en plein studio, justement, en train de faire cet album.
Oui.
Et c'est comme ça qu'on s'est, c'est comme ça que, comme j'ai dit, mais tu es à Montréal, oui, oui, ok, bon, on fait quelque chose ensemble. On a fait un spectacle ensemble. Puis je l'ai invité à faire un tour, voir comment je travaille. Je dis, viens chanter quelque chose. J'ai donc composé une chanson. Je dis, tiens, je suis en train de la composer, la chanson, déjà, style Makossa. Puis je dis, mais tiens, pourquoi pas, je n'inviterais pas Ben, justement, dedans. Et je lui ai fait entendre, il a dit, parfait. Il a dit, je vais chanter quelque chose dedans. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Ben, il a chanté dedans. On est venu en studio, c'était merveilleux. C'était quelque chose. Ben, je l'aime beaucoup et il m'aime beaucoup. Il est venu me visiter aussi. C'est un des rares qui est passé carrément où il vient. Quand il vient à Montréal, on soupe, on parle. On s'est déclaré l'amour entre nous. Et c'est vrai. C'est exactement ici chez moi, on s'est déclaré. Quand je dis, il dit, j'aime comment tu fais. Je dis, toi aussi, quand tu chantes vraiment, ah, si tu savais. Et voilà.
Ouais, c'est l'une des grosses têtes du cadre de la musique Makossa au Cameroun.
Voilà.
Il y a Arlette qui a une question pour toi.
Oui, parce que j'ai lu que dans ton nom de scène, tu l'avais déjà trouvé à 12-13 ans à l'époque de ta première guitare. C'est vrai?
Oui.
Incroyable.
Oui, c'est ça. Quand mon père, justement, est reparti en voyage, comme il voyageait souvent, un jour, il venait d'Allemagne, toujours dans ses conférences d'affaires traditionnelles et linguistiques.
De fonctionnaire international.
Voilà. Le père me demande, qu'est-ce que je te ramène? Alors moi, au Cameroun, vous savez, on était là, on pratiquait. J'étais dans un autre village à côté. Il y avait une seule guitare acoustique où il fallait s'entraîner.
Ah, ouais, d'accord.
Alors on attendait. Il y avait à peu près 5 personnes pour pratiquer sur une seule guitare. Donc chacun allait. Oui. On arrive, tu attends ton tour, quoi. Quand tu écoutes l'autre finir de pratiquer, après, quand il finit, après une heure ou deux heures, il te la passe, après, tu ainsi de suite.
Et c'était pas une école de musique.
Hein. Non, c'était juste pour essayer de pratiquer sur une guitare. C'était juste pour toucher à une guitare acoustique, quoi, tout simplement.
Oui.
C'était pas une école du tout de musique. Pour l'école, on en parlera tout à l'heure, c'est pas du tout la même façon de l'école. Sinon, la guitare, mon papa, moi, je lui ai demandé, quand il m'a demandé qu'est-ce que je t'apporte, je lui ai dit, tu sais, je voudrais une guitare électrique. Il me dit, ah, je dis, apporte-la moi ça, là, si tu me fais ça, là, c'est le plus beau cadeau que tu vas me faire. Alors moi, en fait, la guitare, c'est un instrument secondaire pour moi, quelque part. J'ai toujours fait de la percussion, des balafons, le tambour.
Il faut le dire que tu es un multi-instrumentiste. Hein.
Voilà. C'est ça, j'ai toujours joué dans ce côté-là avec les rituels traditionnels, toutes les musiques traditionnelles.
Tu as appris ça auprès de ton grand-père avec qui tu as passé beaucoup plus de temps.
C'était déjà un don inné que j'avais, la tradition, le langage étant donc cette ancestralité-là. Je me retrouvais avec les anciens à mon âge, puis qui parlaient, on te fait des transmissions, tu ne t'en rends même pas compte. Ça, c'est l'autre aspect mystique de cette tradition, de cette ancestralité. Qui est toute une autre façon. On appelle ça initié ou encore griot. En Afrique de l'Ouest, on dit griot. Chez nous, on dit initié.
Oui, initié. En Afrique de l'Ouest, on parle de griot.
Il y a toutes sortes.
Ça se transmet de père en fils ou bien de père en fille.
Il y en a qui sont porteurs innés, qui naissent avec. Il y en a qu'on les apprend après, qui sont initiés par après. Il y en a qui sont plutôt conteurs. Il y a différentes formes.
Oui.
On fait parmi ceux qui sont des porteurs innés, qui ont à transmettre et qui la jouent. avec les différents instruments. Donc, ce qui fait que, alors moi, la guitare...
C'est cool.
Oui.
Il nous reste une minute.
Ah.
Ouais.
Il n'aura pas eu le temps de m'expliquer pourquoi, alors. Pourquoi ce nom.
Oui, pourquoi ce nom, pourquoi c'est cool. Rapidement, oui.
C'est ça qui... Je l'ai mis sur ma guitare. Oui. Pourquoi ce nom? C'est parce que je l'avais écrit par des jeux de lettres. Je l'ai écrit sur la guitare et j'ai dit, tiens, voilà, ça peut être ça, ça va être mon nom.
Ah, d'accord.
Voilà, et c'est comme ça que les amis l'ont vu, ils disent, tiens, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est ça le nom de la guitare. On dit, ah, c'est cool. Puis en arrivant ici au Québec, c'est comme ça que ce nom est paru ici. On a dit, au Cameroun, je fonctionnais déjà avec ce nom-là.
Oui.
OK, ben merci.
Merci bien. Un dernier mot rapide, là, rapidement, parce qu'on finit, on est déjà à la fin de l'entrevue. On n'a pas 2 heures d'émission, quelques minutes avec toi rapidement. Un petit conseil à ceux qui nous écoutent, qui sont dans le domaine, qui aimeraient, voilà, comme un ancien comme toi qui aimerait avoir un petit mot à leur égard. Où est-ce qu'on te retrouve rapidement? Tu as un site web, zekul.com?
J'ai un site web déjà, zekul.com, zekul.com. Pour tout taper, vous êtes dans mon site, vous pouvez écouter les musiques aussi. Le même, dans le même nom, Z-E-K-U-H-L, dans toutes les plateformes sur Internet, là, que vous pouvez trouver, soit Bandcamp.
Sur toutes les plateformes numériques.
iTunes, ou non, pour acheter aussi, il y en a chez Archambault.
Merci beaucoup. C'est cool.
On arrive à la fin, malheureusement.
Malheureusement, on est à la fin. On espère que la pandémie va nous quitter de ces jours pour qu'on puisse te recevoir ici.
À bientôt.
Bonne chance.
À bientôt.
Et puis, joyeuse fête de fin d'année.
Merci. À vous autant.
À bientôt.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Regards croisés.
Alors dans un instant, restez avec nous puisque on va partir en danse. On va parler de danse. On va parler du danseur et chorégraphe Fernando avec André Laprise. Alors vous voulez savoir tout ce qui s'est passé? Vous voulez qu'on parle des grands ballets canadiens? Fulgence, il me fait oui de la tête. Bon bah. C'est bon signe. On va en parler.
Je te dirai pas non en tout cas.
On va en parler dans la prochaine demi-heure parce que quand même. S'il avait toujours été avec nous, il aurait fêté dans quelques jours son 100e anniversaire. C'est quand même... avoir 100 ans aujourd'hui, ce serait extraordinaire. C'est pour le 27 décembre, mais c'est comme aujourd'hui, parce que c'est la semaine prochaine. Et on ne sera plus là pour le fêter, mais on va parler de tout ce qui a été sa vie, de tout ce qu'il a fait avec les grands ballets canadiens. Et puis, on va en parler avec quelqu'un qui est aussi danseur, qui fait plein de choses. Et dans un instant, il va nous raconter tout ça.
Et non, un danseur pour nous parler aussi d'un grand danseur.
Oui, parce qu'en plus, il a été... Il a travaillé un petit peu avec lui. Il a travaillé un petit peu avec lui, donc c'est formidable. Donc là, on va partir en musique avec Serena Ryder, Jingle Bell Rock.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing.
André Laprise, bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour André.
Et bienvenue dans l'émission, merci d'être avec nous. Alors donc on va parler, comme je le disais tout à l'heure, du célèbre danseur et chorégraphe Fernando. Donc on fêterait le 100e anniversaire bientôt le 27 décembre. Mais avant, commençons avec vous. Vous êtes fiduciaire, répétiteur attitré du fonds chorégraphique Fernando. En étant été danseur, professeur et répétiteur, qu'est-ce que c'est qu'un fiduciaire et quel est son rôle?
Oui, très bonne question. l'héritage dans le milieu culturel est toujours un petit peu fragile ou délicat ou spécial parce qu'on parle d'une propriété intellectuelle. Donc, M. No a décidé de léguer sa propriété, de transférer sa propriété intellectuelle à un individu qui est moi par conséquent. Mais la façon de le faire était de créer une fiducie personnelle, de là le nom du fonds chorégraphique Fernando, dont je suis le fiduciaire, donc je suis le gérant, si vous D'accord. voulez, le gardien. C'est très différent parce que les autres formations du genre aux États-Unis qu'on voyait, les chorégraphes créaient des fondations et des équipes de répétiteurs. Donc, c'était des grosses machines. Alors que M. Nou ne voulait pas se lancer là-dedans. Il voulait que la gestion soit sous contrôle, assez serrée. De là, son choix d'aller vers une fiducie personnelle.
Alors, vous avez été son assistant. Parlez-nous un peu de Fernando.
M. No était un maître absolument extraordinaire et honnêtement, quand j'étais dans mon jeune âge, en formation, que j'ai commencé à travailler avec lui, je n'étais pas conscient de l'importance de l'homme avec lequel j'apprenais et qui transférait tellement de matière, tellement de connaissances. Et personnellement, ben, quand on est en formation, on est confronté à l'apprentissage du répertoire et graduellement, ben moi j'ai harcelé M. No en disant que son répertoire lui valait la peine de lui survivre. C'était, vous savez que c'est la première fois qu'il arrive au Canada. Dans le temps, M. No est le premier à avoir assuré sa succession. Il l'a fait de son vivant.
Alors, je ne savais pas.
On défrichait à ce moment-là. Et en plus, comme je viens de vous dire, qu'il le faisait d'une façon très différente des autres exemples sur lesquels on pouvait s'inspirer. Alors, c'était une première au Canada, puis probablement en Amérique, là. Mais c'est un homme d'une générosité et d'un savoir incroyable et qui donnait ça petit par petit, grenaille. Il était généreux à tous égards, là, qu'il soit un chorégraphe, qu'il soit un pédagogue. Donc, moi, j'étais là. Honnêtement, j'apprenais de lui. J'étais comme... je baignais, là. C'était un grand plaisir, mais je le faisais d'une façon très innocente. Honnêtement, là, c'est pas à mon hommage, mais ça m'a permis de faire cette démarche-là avec beaucoup d'humilité, beaucoup de plaisir, sans me rendre compte de la charge, de la responsabilité qui s'annonçait. Et finalement, ben, ça s'est fait graduellement, puis c'est devenu très naturel.
Mais bien sûr, puisque vous voulez être vous-même danseur, professeur aussi, donc vous connaissez bien le fait d'être artiste et de le communiquer aussi.
Oui, c'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un maître comme M. No, parce que vous savez, en danse, le savoir se transfère de maître à élève. C'est quelque chose, on peut difficilement le transférer par vidéo, par audio.
Ou par écrit.
Ou par écrit. Ça, oui. Ça se passe en action. C'est la force et la faiblesse de la discipline, puis on le voit très bien en ces temps de pandémie. Mais M. No, faut savoir qu'il est le lien entre une tradition de très longue date qui vient des pays européens et tout, qui s'est développée en Amérique du Nord et parce que lui a travaillé pendant 21 ans avec la compagnie de prestige American Ballet Theatre qui est à New York. Et ce savoir-là, il est revenu au Québec pour pouvoir le transférer, le transformer, le faire évoluer, tu sais. Donc, pour nous, gens ici dans notre communauté, dans notre société, Monsieur Nou est un lien direct avec l'histoire, avec les grands qui écrivent, qui ont écrit l'histoire de la danse. Et en plus, il était un créateur et à sa façon, il était très contemporain dans son temps, puis ça fait pas très longtemps. Alors, Monsieur Nou fait la tradition en toute l'histoire du ballet classique, si vous voulez, mais toute l'innovation qui se passait dans ce temps-là, comment que le ballet théâtre, comment que le jazz, comment que la danse moderne influençait l'histoire de la danse à ce moment-là. Monsieur Nou était un acteur, il est un héritier de cette époque-là. Donc, c'est une grande richesse, honnêtement, et que les gens ne sont pas conscients nécessairement, parce que regardez son casse-noisette qu'on ne verra pas live cette année.
Oui, malheureusement.
Malheureusement. Mais quand on regarde ce ballet-là, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce ballet-là est intéressant aujourd'hui? C'est parce qu'il fait le lien entre la tradition et l'innovation. Et il a une fraîcheur encore parce que M. Lowe était très sensible à la qualité des artistes avec lesquels il travaillait. T'sais. Donc, en tout cas, c'est une très belle conjugaison et cet homme-là était un mix très intéressant de connaissances, d'innovation, de musicalité, de sens artistique, de pédagogie, d'accessibilité. Ça fait que ses œuvres sont encore pertinentes de nos jours.
Ah ben on peut regarder, enfin, moi je l'ai vu que deux fois, Casse-Noisette, mais je trouve ça absolument sublime. Je ne remarquerai pas les détails d'innovation dedans, de quelque chose. Je me laisse juste emporter par le charme de ce spectacle et par la beauté qui s'en dégage, d'ailleurs.
C'est ça. Et voyez-vous, bon, son Casse-Noisette, parce que c'est une pièce de répertoire majeure, et puis on a de quoi être fier parce qu'à Montréal, c'est coté comme une des meilleures versions en Amérique du Nord.
Oui, c'est vrai.
Vous savez que sa version a été acquise aussi en République tchèque, donc la même chorégraphie se fait à Brno en République tchèque depuis 5 ans. C'est la seule production nord-américaine qui est exportée en Europe et c'est la chorégraphie de M. Nou, donc on a de quoi être fier.
Ah oui,
ça témoigne peut-être de sa valeur. Mais vous savez qu'il y a d'autres œuvres, par exemple son Carmina Burana, son Symphonie de Psaume, sa version de la fille mal gardée, sont des œuvres qui sont encore très intéressantes et très performantes de nos jours. Personnellement, moi, je suis allé remonter son Carmina Burana à Denver, au Colorado, en 2019, et ça a été un très grand succès de nos jours, parce que c'est une pièce qui a... Vous savez, des classiques, c'est des classiques, hein? Ça fait du bien à l'âme, c'est comme un bon bougie, là. Ça nous réchauffe le cœur.
Oui, c'est vrai.
Il y a des choses qui nous réunissent là-dedans, et Fernando est un des premiers chorégraphes qui, en danse, nous offre des œuvres comme ça. Oui. On a des créateurs en théâtre, on en a en musique, on en a en chanson, on a du Félix Leclerc, du Gilles Lignot, du Michel Tremblay. Mais en danse, Fernando est un de ceux qui nous ont offert quelques classiques. Ce n'est pas toutes ses œuvres, naturellement, qui pouvaient lui survivre, mais son Carmina Burana, qui est très différent de la nouvelle production qui a été présentée l'an dernier par les grands ballets canadiens, reste que c'est un des classiques qui a contribué à bâtir la danse et la réputation des grands ballets canadiens dans le temps.
C'est vrai.
Alors, c'est ça. Et Fernando, ben moi, innocemment, j'ai découvert et j'ai pu confirmer que au Canada, en danse, c'est pas juste au Québec, mais vraiment au Canada, c'est le premier artiste en danse qui a eu une carrière de cette envergure-là et qui célèbre un anniversaire de telle envergure.
Très bientôt.
Je pense qu'on a de quoi être fier. Puis écoutez, à venir au printemps, il y a même un timbre commémoratif que Poste Canada va lancer en sa mémoire, oui.
On va en parler dans un instant. On fait une petite pause musicale et on vous retrouve tout de suite après, d'accord?
Parfait.
Restez avec nous.
Ok.
Malade moi, oui je veux bien l'être, car je le suis, tout au fond de mon cœur. Aussi mauvaise que l'herbe qui pousse là sur la tombe des déshérités. Ma folle jalousie pousse, la racine coupe les doigts, telle est ma maladie envers toi. Mais devant toi, je vais défaillir, je peux pas gagner, non, je peux pas gagner. Jardinier, sérieux, amoureux de ton jardin, là tu vas m'achever. Oui, je suis ton poison et tu auras raison, car à la longue, j'en vais. Je blesserai tes jolies fleurs, j'étranglerai toutes les plantes sublimes par morsure. Je serai là, triomphante. Entrant, en glissant vers ton lit. Oui, comme l'herbe, ma folle jalousie pousse, la racine coupe les doigts.
Alors on vient d'entendre Jane Birkin qui nous chantait « Telle est ma maladie envers toi ». Alors maintenant, André Laprise, continuons. Continuons sur tout ce qu'il va y avoir. Vous me parliez du timbre, mais il va y avoir un timbre commémoratif au printemps, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ben, vous pouvez vous douter que la pandémie
a repoussé les choses, évidemment.
Ben, remanie les choses et d'un côté, je la remercie quasiment la pandémie parce qu'elle me permet de continuer à m'organiser. Personnellement, vu l'importance que je vous mentionnais un peu plus tôt, le fait que c'est la première fois au Canada et au Québec qu'on a un anniversaire en danse de telle importance,
oui.
Pour moi, je trouvais plus intéressant de marquer ce centième-là d'une façon plus longue, soit au moins minimalement pendant toute l'année. Et l'objectif, c'est d'arriver à éveiller l'intérêt vers notre patrimoine en danse, mais aussi éveiller l'intérêt vers le remontage du patrimoine, parce que la danse, elle est belle quand elle est vue
oui,
sur scène, c'est un art vivant. En reproduction, ça ne lui rend jamais ou rarement justice. Et pour aussi enrichir puis essayer de trouver l'information juste, donc il y a plusieurs personnes qui ont contribué, qui attribuent l'importance aussi à cet anniversaire-là. Et j'ai essayé de mettre une programmation aussi diversifiée que possible dans le maximum de médiums possible. Alors, dans un premier temps, écoutez, il y a une historienne qui s'est portée volontaire pour réécrire la page Wikipédia. Donc, il y a un article maintenant de fond qui est disponible et qui a été, donc, il y a accès à une information très juste et vérifiée sur Fernando, et c'est très démocratique parce que c'est accessible en tout temps. Son article intégral est d'ailleurs disponible sur le site. J'ai créé une ligne de temps, j'ai reçu des témoignages.
Il y a un recueil de témoignages, oui, c'est ça, je vois, je me souviens.
C'est ça. Je vais le mettre disponible le 27 décembre parce que c'est la journée anniversaire de M. Nau. Mais c'est des très proches collaborateurs, des gens qui ont dansé, qui ont travaillé de près avec lui et qui témoignent de leur expérience avec M. Nau. C'est très touchant. Ça a été fait sur une base volontaire. Je les ai ramassés dans un recueil. Vous allez voir, c'est très touchant. La page Facebook qu'on a lancée, d'ailleurs, donne des extraits, donc ça peut donner un avant-goût.
Qu'est-ce que c'est la capsule historique? Je suis curieuse.
J'allais justement vous en parler.
Je vous ai coupé dans votre élan.
non, c'est très bien. Écoutez, je suis content. Ça démontre l'intérêt et la pertinence. Vu la pandémie, j'ai pensé demander à l'historienne Marie Beaulieu, qui a écrit la page Wikipédia et l'article de fond, de faire une conférence, parce qu'il y a un projet de conférence qui pourrait se promener. Mais vu que c'est limité, donc on va faire une captation qu'on appelle la capsule historique sur Fernando, et ça va être disponible maintenant. On va avoir une référence de base. Alors, comment qu'on va l'utiliser, la rendre disponible, c'est pas détaillé encore, mais ça va être en version numérique. Alors, la conférence pourrait être quelque chose de disponible permanent pour les cours d'histoire ou le commun des mortels et tout. Et moi, je pourrais être disponible en complément à ce moment-là pour enrichir, discuter de M. Nau plus précisément et tout. Mais ça va être quelque chose qui... Parce que je vise à travers ce centième d'avoir des activités qui vont être diversifiées, comme je disais, mais qui vont être accessibles en permanence. Parce que c'est important de connaître nos bâtisseurs et d'y avoir accès. Et nous, on l'a accès maintenant, mais peut-être que plus tard, les générations futures. Donc, de laisser une trace, c'est ce qui est important. Le roman graphique, vous allez probablement...
Oui.
Ça va être votre prochaine question.
Oui, parce que vous nous avez parlé du thème commémoratif. Alors, le roman graphique, oui, c'est ma prochaine question.
C'est ça. Alors, le roman graphique, c'est une ancienne élève qui a eu le privilège de faire le rôle de Clara, entre autres, qui a été enseignée par M. Nau. C'est une des dernières que M. Nau a enseignée. Et moi, j'étais son assistant à ce temps-là. Son métier, c'est d'être scénariste. Alors, elle avait déjà écrit un scénario pour un projet de documentaire qui, finalement, bon, c'est très difficile, là, les documentaires, de trouver les fonds et tout. Et je l'ai défié, relancé sur dire, bon, écoute, c'est difficile, tu as un scénario, est-ce qu'on pourrait en faire une bande dessinée? Et finalement, c'est devenu un projet de roman graphique qui est presque terminé. Maintenant, on est à la recherche de fonds pour pouvoir le rendre public, chercher un éditeur et tout.
D'accord.
Mais le projet est très, très, très avancé. Et là, je vous vois venir l'exposition itinérante.
Vous allez vous demander... Vous me sortez les mots de la bouche, si j'ose dire.
Je connais ma programmation.
Vous le faites tout seul, alors j'ai plus besoin d'être là, bon. Je vous écoute juste.
Bon, j'espère que c'est agréable.
Ah mais, oui?
Écoutez, les grands ballets canadiens m'ont remis à titre de fiduciaire. On m'a remis au fond chorégraphique les costumes des ballets de M. Nau, dont il n'allait plus se servir. Et parmi ces costumes-là, il y avait la première production de Carmina Burana et la dernière production du ballet Tommy, qui ont été créés par François Barbeau, qui est décédé entre-temps, et dont les costumes,
bien
le
connu.
Fond des costumes, est remis, a été déposé au Musée de la civilisation à Québec. Donc, une très belle collaboration. Le musée a accepté de mettre en branle une petite exposition itinérante présentant les costumes des ballets de Fernando, les costumes qui ont été faits par Fernando.
C'est une super idée. Pardon.
Oui, c'est super idée. Mais moi, j'avais déjà un artiste peintre qui avait été intéressé à faire des peintures, des tableaux inspirés des costumes du ballet Castle-Vette. Et là, je l'ai relancé pour les costumes de Carmina et de Tommy. Et j'ai une artiste ici dans la région, parce que moi, je suis résident de l'Outaouais.
Oui.
Où que je lui ai remis des retailles des costumes de Carmina Burana qui ne servaient pas. Et elle a créé des œuvres originales à partir de ça. Donc, l'exposition itinérante, Fernando, une passion, un leg, j'ai eu accès à deux super stagiaires l'été dernier, lesquelles sont encore actives, même s'ils sont hors stage. Et le Musée de la civilisation avait une des stagiaires. Donc, la portion du Musée de la civilisation, elle est créée. Elle est en attente de production parce que là, on n'a pas de lieu d'accueil qui peuvent le faire maintenant, mais dès qu'on va pouvoir le faire, les artistes, les œuvres sont faites, le concept de l'exposition, les éléments, tout est prêt à rentrer en production. Et quand les grands ballets vont se repromener avec Casse-Noisette, fort probablement que les lieux d'exposition qui avaient démontré de l'intérêt, qui avaient confirmé leur accueil, on va remettre ça en branle, mais c'est un projet qui va se promener, oui.
C'est parfait. Dans les quelques minutes, les 2-3 minutes qui nous restent, avant de finir cette entrevue, que je vous remercie parce que vous êtes un vrai conteur aussi, je voudrais revenir un petit peu sur vous, personnellement. J'ai vu que vous étiez engagé auprès d'organismes qui s'occupent de former, de développer la danse, des réseaux d'écoles en danse classique du Québec, dont justement l'Académie de danse de l'Outaouais.
Mm-hmm.
Alors, parlez-nous-en un petit peu, parce que c'est la façon aussi de transmettre, c'est ça aussi quand on passe par les écoles, ça fait aussi partie de cette transmission dont vous nous parliez tout à l'heure.
Oui, c'est très important. Puis j'ai le privilège de diriger une école à but non lucratif à Gatineau, l'Académie de danse de l'Outaouais. Et cette école-là a un mandat de formation en région. Pour moi, c'est un tremplin extraordinaire parce que ça me permet d'être dans un environnement très calme à comparer d'un environnement montréalais, telle l'école supérieure.
Oui.
Les organismes professionnels sont extraordinaires, mais ils sont de haut niveau. Il y a beaucoup de défis et de rendements. Et ça prend des organisations qui sont préparatoires à ces grandes organisations-là pour nourrir la chaîne de formation et les danseurs de la relève. Alors moi, je me trouve à travailler au bas niveau, au plus bas niveau de la chaîne, et en même temps, en tant que fiduciaire, de travailler dans les institutions professionnelles. Pour moi, c'est un grand privilège parce que je reviens dans mon patelin, dans l'école que je dirige, ben je reviens avec les standards du milieu professionnel et les standards actuels et à jour. Alors, l'exigence que j'ai envers les jeunes ou ce que je peux leur offrir comme contexte, et pour les jeunes et pour le personnel que j'encadre, avec lequel j'ai eu le privilège de travailler, bien écoutez, c'est une grande richesse et ça se fait dans le calme et le respect. Moi, je me trouve privilégié de travailler dans les extrêmes, autant au bas de la chaîne qu'en haut de la chaîne. Et ça me permet de faire les liens comme au réseau. Bien, maintenant, je suis redevenu membre, mais je suis un des membres fondateurs initialement. Peut-être que je vais me réimpliquer, mais pour moi, c'est toujours de pouvoir partager l'expérience que j'ai à tous les niveaux.
Bien.
Parce que tous les niveaux sont importants.
Écoutez, bravo. En tout cas, moi, je vais vous dire une chose. Là, en ce moment, dans le studio, et puis sans doute avec nos auditrices et auditeurs aussi, c'est nous qui sommes privilégiés de vous avoir et que vous nous racontiez si bien l'histoire de la danse et la manière dont ça va être communiqué. Plus tard, comment on va pouvoir garder tout ça, comment on va pouvoir, si le livre, si le roman est là, les capsules, toutes ces choses, c'est formidable à vous de nous en avoir parlé. Merci beaucoup pour tout ça. C'était un grand plaisir de vous recevoir et puis je vous souhaite bonne continuation et puis bon
merci
anniversaire à Monsieur No qui
merci.
Va durer très très longtemps.
Merci beaucoup André.
Au revoir.
Merci.
On dit merci rapidement aussi à notre premier invité, c'est cool.
Oui, bien
oui,
sûr.
Oui, on souhaite.
Et puis,
Maurice.
Voilà,
merci
Maurice Bolduc. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Et puis,
on se voit demain.
On se parle demain, oui, bien sûr.
On va pas se voir sans se parler, quand même.
À bientôt.
À bientôt. Bonne soirée.